Donc, nous continuons notre étude de l'Évangile de Jean, chapitre par chapitre. Et vous vous souvenez, la semaine passée, c'est notre frère Denis Bougeon qui a enseigné au début du chapitre 6. Donc, Jésus est dans son ministère où il parcourt la Galilée. Il va éventuellement se rendre jusqu'à Jérusalem. Et Jésus vient d'enseigner à une grande foule, une immense foule, alors qu'il était sur le bord de la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Comment ça se fait qu'autant de Juifs se trouvaient dans ce coin-là? Parce que c'était dans la campagne, là. C'est parce qu'on apprend dans le contexte que beaucoup de Juifs étaient en marche, étaient en route pour leur pèlerinage annuel pour fêter la Pâque à Jérusalem. Et dans leur déplacement, ils ont entendu dire que Jésus, qui avait une grande réputation, qui était rendu populaire, bien, se trouvait justement au bord de la mer. Donc, plusieurs ont dévié de leur chemin pour se rendre là, aller l'écouter. Ils voulaient le suivre. Et comme il voyageait léger, il voyageait surtout à pied à l'époque, là, bien, il n'y avait pas beaucoup de nourriture et il se trouvait à un endroit où il n'y avait rien à manger. Donc Jésus les a nourris lui-même dans un miracle vraiment spectaculaire. Il a nourri 5000 hommes qui étaient présents, ça c'est sans compter les femmes, les enfants qui étaient avec eux, avec seulement 5 pains et 2 poissons. Donc il les distribuait et ça se multipliait au fur et à mesure. Tout le monde a pu manger à satiété. Tout le monde était rassasié. C'est-à-dire qu'à la fin, il n'y a plus personne qui voulait manger. Il était plein. Et pourtant, il a resté 12 paniers pleins. Donc, c'était tout un miracle et beaucoup ont été saisis. Et on va en reparler de ce miracle-là dans le passage aujourd'hui. Les Juifs, à l'époque, espéraient la venue du Christ, mais ce qu'ils espéraient, c'était enfin quelqu'un qu'ils allaient pouvoir placer comme roi au-dessus d'eux pour les libérer. Donc, ils espéraient une libération nationale, et quelqu'un qui allait assurer la prospérité. Donc déjà, de pouvoir manger à sa faim, c'était un bon début pour eux. Puis Jésus savait que s'il restait avec eux, ils allaient le faire roi. Mais ce n'était pas sa mission. Donc il est parti seul dans la montagne. Il s'est éclipsé, et il a envoyé ses disciples tout de suite, ses 12 apôtres, dans la barque pour traverser la mer. Les disciples ont pris, finalement, la seule barque qui était sur la rive. Et la foule a vu cela. Ils ont entrepris la traversée de la mer et pendant la nuit, ils ont été pris dans la tempête, un peu comme on chantait dans le chant tantôt. Et Jésus a fait un autre miracle, que là, seuls ses disciples ont été témoins, mais qu'il nous est rapporté. Jésus est arrivé vers eux en marchant sur l'eau. Dans une mer qui était déchaînée, Jésus marchait sans problème. Il s'est approché d'eux et ils l'ont fait embarquer dans la barque et la tempête s'est calmée. Et aussitôt, ils ont pu arriver à bon port. L'épisode qu'on étudie aujourd'hui se passe tout de suite après cela, après le miracle de la multiplication des pains et d'avoir marché sur l'eau dans Jean 6, 22 à 59. On va le lire en trois parties. D'abord, versets 22 à 35. Je vous invite à tourner dans l'Évangile de Jean, chapitre 6, verset 22. Le lendemain, la foule qui était restée de l'autre côté de la mer vit qu'il ne s'était trouvé là qu'une seule barque, et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais que les disciples étaient partis seuls. Mais d'autres barques arrivèrent de Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé le pain, après que le Seigneur eut rendu grâce. Et quand les gens de la foule virent que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, ils montèrent eux-mêmes dans ces barques et ils allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Ils le trouvèrent de l'autre côté de la mer et lui dirent, « Rabbi, quand es-tu venu ici? » Jésus répondit, « en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non en vue de la nourriture qui périt, mais en vue de la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, Dieu, a marqué de son sceau. » Mais ils lui dirent, « Que ferons-nous afin de travailler pour les œuvres de Dieu? » Jésus leur répondit, « Ce qui est l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » « Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions? Quelle œuvre fais-tu? Nos pères ont mangé de la manne dans le désert, selon ce qui est écrit, et leur donna à manger du pain venu du ciel. » Jésus leur dit, « en vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, mais c'est mon Père. Il vous donne le vrai pain venu du ciel, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui vous donne et qui donne la vie au monde. » Et ils lui dirent, « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. » Et Jésus leur dit, « Moi, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Amen. C'est des paroles solennelles. C'est la première fois ici que Jésus utilise une illustration pour parler de lui. « Je suis. » Il va le faire à plusieurs reprises dans tout l'Évangile de Jean. Et cette première-là, c'est la première occasion, c'est qu'il dit « Je suis le pain de vie. » C'est pas pour rien que ça se passe tout de suite après la multiplication des pains. Donc, Jésus a multiplié les pains. La foule veut rester attachée à lui. Même, ils sont convaincus que c'est le prophète qui est arrivé. Ils ont vu les disciples partir seuls en barque. Donc, le lendemain, ils le cherchent. Ils disent, Jésus, il doit être encore dans le coin. Là. Les disciples sont partis seuls. Mais ils ne le trouvent pas. Et alors qu'il y a d'autres barques qui arrivent, probablement des pêcheurs, ils prennent leur barque, ils s'embarquent et ils partent à la recherche de Jésus. Donc, ils ne sont probablement pas 5000. Ça serait étonnant. Là. Je ne sais pas combien de personnes pouvaient rentrer dans ces barques-là, mais ils sont quand même nombreux à partir en expédition pour essayer de trouver Jésus. Et ils le trouvent à Capernaum, donc vraiment après avoir traversé la mer. Et ils le trouvent à la synagogue. On va apprendre ça un peu plus loin dans le texte. Jésus est entré enseigner. Donc, il échange avec d'autres à la synagogue et il le trouve là. Puis là, ils sont saisis. Ils pensaient probablement trouver ses disciples-là, mais ils trouvent Jésus. Comment il a fait pour arriver là? Ils se posent la question, « Depuis quand tu es ici? Comment tu as fait pour arriver aussi vite? » Ils ne savaient pas qu'il avait marché sur l'eau, mais Jésus ne répond pas à leur interrogation. Ce n'était pas ça l'important pour lui, là. Il profite plutôt de l'occasion pour dévoiler leur cœur. Pourquoi ils ont entrepris de traverser la mer eux aussi à sa recherche? Pourquoi ils veulent rester attachés à Jésus? C'est quoi leur motivation profonde? Parce qu'ils l'appellent Rabbi, qui veut dire maître. Donc, de leur bouche, ils prétendent qu'ils adoptent Jésus comme maître et ils veulent suivre son enseignement. Mais qu'est-ce qui les intéresse réellement? Jésus le dit, c'est pas parce que vous avez vu les miracles que vous me cherchez. Ce n'est pas parce que vous avez vu les miracles que vous cherchez la signification profonde des miracles. Vous cherchez à savoir qui je suis. C'est parce que vous avez mangé. Donc, finalement, c'est votre estomac qui vous mène. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça dans les émissions pour enfants. Là. Quelqu'un qui sent quelque chose de bon. Là. Il vole dans le ciel hein, en suivant l'odeur du café. Mais eux, ça, c'est normal. Là. Mais bon, ici, ce qui l'attirait, c'était de manger du pain. Bien, ils s'en vont voir Jésus. Donc, Jésus dévoile leur cœur. Ce qui vous intéresse réellement, ce n'est pas de savoir qui je suis, quelle est la signification des miracles que vous avez vus, c'est d'avoir l'estomac plein, dans le fond, que je réponde à vos besoins. Mais vos besoins terrestres, physiques, matériels, temporaires. Et Jésus les exhorte à ne pas travailler, c'est-à-dire ne pas s'efforcer pour la nourriture terrestre qui périt. On peut accumuler de l'argent pour qu'on achète du pain, mais si on ne mange pas tout de suite, là. En tout cas, du vrai pain, c'est supposé de moisir éventuellement. Sinon, même si on le mange, c'est de courte durée, là. On ne peut pas vivre un an après avoir mangé seulement une miche de pain. Donc, c'est temporaire. Jésus leur dit, ne travaillez pas pour cela, pour la nourriture terrestre qui périt, mais pour la nourriture qui dure pour la vie éternelle. La vraie nourriture. Et c'est ce qu'il donnera lui-même bientôt. Il dit, le Fils de l'homme va donner cette nourriture-là qui est pour la vie éternelle. Pourquoi Jésus parle au futur qu'il va la donner? Parce qu'on comprend que c'est lorsqu'il va mourir en sacrifice sur la croix que cette nourriture sera disponible pour quiconque. Et les miracles qu'il fait, c'est là que ceux qui ont été témoins de la multiplication des pains, qui sont venus à sa recherche, ils auraient dû se poser la question, qu'est-ce que ça signifie? Et ces miracles-là sont la preuve qu'il est vraiment marqué du sceau de Dieu, comme Jésus dit. Le Fils de l'homme est marqué de son sceau. La signification, je pense, c'est que Jésus est marqué du sceau d'approbation de Dieu, attesté. Un sceau d'authentification. Donc, ce que Jésus enseigne, c'est vrai. Même si c'était vraiment nouveau pour les Juifs qui l'entendaient, et Jésus parlait avec autorité. Il se présentait vraiment comme le nouveau Moïse qui transmet la volonté de Dieu au peuple. Les gens pouvaient se dire, mais pour qui il se prend? Est-ce qu'il est vraiment autorisé de parler comme cela? Mais les miracles qu'il faisait prouvaient qu'il était autorisé. C'était la marque, le sceau de Dieu. Donc, c'est ça la vraie signification des miracles. Ça témoigne en même temps de sa bonté, de sa compassion, de sa puissance. Mais le but premier des miracles que Jésus a fait, tous les miracles, c'était d'attester qu'il était vraiment celui que le Père avait envoyé. Et selon Jésus, il ne faut pas se mettre en souci des choses de cette vie sur terre, mais plutôt de la vie après la mort. C'est ce qui est le plus important. Hier après-midi, Mélodie et moi, on était dans un service funéraire d'un de mes oncles décédé à Québec. Mais ce n'était pas un service chrétien. Donc, il y avait toutes sortes de choses qui se sont dites là, mais ce qui m'est revenu là, à l'idée pendant tout le service, c'était la vie passe tellement vite là. Tous les gens qui sont là devraient se soucier de connaître la vérité, pas simplement de ce qu'un pense, mais un autre pense. Même chaque intervenant, des fois, se contredisait l'un l'autre. Même la dame qui animait le service disait « Personne ne sait ce qui se passe après la mort, il faut l'avouer. » Mais c'est triste, ça. C'est une chose extrêmement importante, parce que demain, peut-être qu'on ne sera plus là. Ça passe tellement vite, et même si on a une vie longue, là, qu'on vit jusqu'à 80 ou 10 ou 100 ans, c'est rien, là. Ce qui est important, c'est ce qui se passe vraiment après le jour de notre mort. C'est ce que Jésus veut sensibiliser ses concitoyens. Et là, les gens lui demandent alors, bien, OK, mais s'il faut travailler pour ces choses-là, là, travailler pour la vie éternelle, c'est quoi les œuvres qu'il faut faire? Bien sûr, Jésus n'a jamais enseigné le salut par les œuvres. Tout le Nouveau Testament nous montre qu'on n'est pas sauvé en faisant telle ou telle œuvre. Ce serait comme du légalisme. De toute façon, on ne serait jamais à la hauteur. Mais il y a quand même une œuvre qu'il faut faire pour être sauvé. Il y en a une. C'est une œuvre d'obéissance à Dieu, et c'est de croire en son Fils, croire en Jésus. Dieu, le Père, nous ordonne, il y en a une chose qui nous ordonne pour être sauvés, c'est de mettre notre confiance en Jésus parce qu'il l'a envoyé. C'est son envoyé, c'est son Messie, son Oint, son Fils. On n'a pas le choix. C'est un ordre de la part de Dieu. Si vous voulez être pardonné et dans ma présence, vous devez croire en Jésus. Si on refuse, on est perdu. Finalement, c'est la seule œuvre qui nous sauve, c'est de croire en Jésus, de mettre sa confiance en lui. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais nous sommes sauvés par l'acte d'obéissance, de croire en Jésus. Un acte de soumission. C'est Dieu qui a décidé la manière dont on serait sauvé. Donc, on se soumet à lui, on s'humilie devant sa volonté. On plie le genou. Ici, les Juifs font le lien entre les prétentions de Jésus, parce que Jésus parle de manière solennelle pour avoir la vie éternelle. Ils font le lien avec celui qu'ils attendaient. Ils attendaient la venue du prophète. Vous vous souvenez, la semaine passée, après que Jésus a fait la multiplication des pains, la foule, qu'est-ce qu'elle a conclu? C'est lui, le prophète. Là, ils voulaient en faire roi. Donc, ils attendaient la venue du prophète que Moïse a annoncé. Un prophète grand qui allait venir faire une révolution, là, une grande réforme au sein du peuple et les libérer. Comme Moïse les avait libérés de l'esclavage en Égypte, ils disaient, le nouveau Moïse qui s'en vient, là, le futur prophète, il va nous libérer de l'esclavage de l'Empire romain, entre autres, nous accorder la prospérité. Donc, c'est ce que la foule a conclu. C'est lui, le prophète, qui vient dans le monde. Donc, les Juifs lui demandent, quel miracle vas-tu faire pour qu'on te croie, pour qu'on puisse avoir la certitude que c'est vraiment toi, là? Et justement, il le compare à Moïse. Il dit, grâce à Moïse, nos pères dans le désert, les Israélites ont pu manger la manne. Donc, ils ont survécu. Sinon, ils seraient morts de faim dans le désert. Grâce à Moïse, là, Moïse leur a donné la manne, le pain descendu du ciel. Ils ont pu manger, ils ont survécu. Toi, qu'est-ce que tu fais? Si Moïse a annoncé un prophète, il devait au moins être aussi grand que lui. Donc, il s'attendait à un miracle au moins aussi grand que celui de Moïse. Ce qui est ironique, c'est que Jésus vient justement de multiplier une poignée de pain pour nourrir 5000 personnes. Il était amplement capable de faire ça, mais ils n'avaient quand même pas saisi. Si Jésus est bien le prophète, il doit faire un prodige, au moins aussi grandiose que Moïse. Et là, Jésus leur répond, puis il les corrige. Il dit, c'est pas Moïse qui a donné la manne. C'est Dieu. C'est un pain venu du ciel, vous l'avez dit vous-même. Et je vous invite à tourner dans Exode 16. On a le temps, on va aller lire un extrait dans Exode, le deuxième livre de la Bible, chapitre 16. Exode 16, verset 1. Toute la communauté des Israélites partit d'Élim pour arriver au désert de Sin, qui est à Élim, et le Sinaï, le 15e jour du second mois après leur sortie du pays d'Égypte. Alors toute la communauté des Israélites murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les Israélites leur dirent, « Ne sommes-nous morts sous la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des marmites de viande, quand nous mangeions du pain à satiété? Car vous nous avez fait venir dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette assemblée. » L'Éternel dit à Moïse, « Je vais faire pleuvoir pour vous du pain du haut du ciel. Et le peuple sortira et en recueillera jour par jour la quantité nécessaire. Ainsi je le mettrai à l'épreuve et verrai s'il marche ou non selon ma loi. » C'est clair, c'est Dieu, c'est l'Éternel lui-même qui dit à Moïse, dis-leur, là, « Je vais faire pleuvoir du ciel le pain qui vient du ciel. » Et après, ils l'ont appelé la manne. Mais c'est Dieu qui a fait pleuvoir ce pain-là. Et c'est... Les Juifs l'avaient peut-être oublié, mais lorsque la manne a été donnée, c'était dans le contexte où le peuple était en train de murmurer, de critiquer Moïse lui-même et de critiquer l'Éternel. Maintenant, aujourd'hui, dans l'époque de la Nouvelle Alliance, nous comprenons que Dieu a utilisé cette expression-là. C'est moi, quand il parle à Moïse, c'est moi qui vais leur donner le pain qui vient du ciel. C'est littéralement ce qui est arrivé, le pain venu du ciel, une manne pour le peuple. Mais on comprend, même l'expression que Dieu a utilisée, c'était une manière d'annoncer à l'avenir, d'annoncer à l'avance le vrai pain qui allait venir du ciel. Même la formulation ici, inspirée par le Saint-Esprit, annonce la venue du pain de vie, du pain venu du ciel, c'est-à-dire le Messie, le vrai pain. Et selon Jésus, c'est ce que Dieu fait maintenant. Il donne au monde entier, le pain qui vient du ciel et qui donne la vie. Le vrai pain. La manne était comme un symbole, un preview du vrai pain. Donc là, les gens disent à Jésus, « OK, mais donne-nous toujours de ce pain-là. » Ils n'ont pas compris qu'il ne parlait pas d'un pain matériel. Il pense encore à un pain qu'il faut manger à chaque jour. Donne-nous toujours de ce pain-là, comme ça on va toujours pouvoir survivre. Mais Jésus répond, « Moi, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. » Donc, c'est un pain qu'on mange une fois et qui a un effet éternel. On n'a plus jamais faim par la suite, plus jamais soif. Un pain qui est rempli et on est complet pour toujours. Donc, croire en Jésus procure pas seulement la vie pour une journée supplémentaire, procure une vie qui est éternelle. Donc, Jésus dit, toute personne qui vient à moi, qui croit. Mais on va voir qu'il le développe, il s'agit de la vraie foi, par contre. La foi qui consiste à se repentir de sa vie passée. Aller à Jésus, c'est ne plus aller selon son propre désir, renoncer à être le propre maître, son propre maître de sa vie, puis d'aller vers Jésus, et Jésus devient le réel maître de notre vie. Donc, se repentir d'une vie où est-ce que, avouons-le, nous péchions contre Dieu, à répétition, une vie d'orgueil et de rébellion contre le Créateur, pour se tourner vers Jésus, une vie de soumission, d'obéissance au Seigneur. Donc, la vraie foi, implique une conversion à Jésus. Aller à Jésus procure la vie éternelle. De nos jours, il y a beaucoup de gens qui vont supposément à Jésus, qui vont dans des grandes églises, des méga-churches qui attirent des gens en foule, qui veulent suivre la beauté d'être chrétien, qui veulent obtenir les bienfaits terrestres d'être chrétien. Il y a des bienfaits là, d'assister à un culte en grande église. On peut s'entraider, on bénéficie aussi de La paix, il y en a qui témoignent ça. Ah, j'aime ça venir à l'église, ça me procure la paix, c'est calme. On a le bienfait d'être dans une communauté qui est comme une famille. On prend soin les uns des autres. Si on a besoin de parler parce que ça va mal, on va trouver quelqu'un qui va nous écouter. Il y a beaucoup de bienfaits. Il y a même des bienfaits matériels. Certains sont attirés dans les grandes églises par des prédicateurs qui promettent aussi la guérison pour une maladie. Qui promettent que les problèmes financiers vont être réglés. Ils promettent la prospérité. Ils promettent de trouver un conjoint. Quand ça fait des années que tu cherches un conjoint, une conjointe, tu dis, ah, je vais aller à l'église, le pasteur dit, je vais trouver une conjointe. Il faut que je croie à la volonté de Dieu, puis il va mettre la bonne personne sur mon chemin. Donc, il y a des gens qui attirent une foule de gens qui viennent pour les bienfaits que procure la vie chrétienne. Mais ils ne viennent pas parce qu'ils veulent aller à Jésus pour être sauvés. Et ça fait toute la différence. Ce que Jésus demande, c'est une véritable conversion à Jésus. Et c'est ce qu'il faut prêcher, là, que les gens ont besoin. Quand on présente l'Évangile, là, c'est tu as besoin d'être sauvé, réconcilié avec Dieu, sinon ce qui t'attend, c'est la condamnation éternelle. Jésus te sauve de cela pour te procurer la vie éternelle. Ça ne plaît pas à la majorité des gens. C'est pas avec ça qu'on attire les foules. D'ailleurs, on va voir la semaine prochaine que les foules ont quitté Jésus après qu'il a dit ça. Ouais, finalement, ce n'est pas le bon gars pour nous. Mais la vérité, c'est ça. C'est ce que les gens ont le plus besoin. Ce n'est pas la nourriture, ce n'est même pas la santé. On entend souvent ça, la santé, c'est la chose la plus importante. Ben non. Ce n'est pas non plus l'argent. Ce n'est même pas l'amour. Ce n'est même pas tout ce qu'on pourrait trouver. C'est d'être réconcilié avec Dieu. C'est ça la chose la plus importante. Mais Dieu nous dit, préoccupez-vous de cela en premier, cherchez les choses du royaume de Dieu, et moi, je vais vous donner tout le reste. Ne vous en inquiétez pas, là, je vais pourvoir à vos besoins. Donc, on ne va pas à Dieu pour qu'il réponde à nos besoins terrestres, on va à Dieu pour qu'il réponde à notre besoin spirituel et éternel, et lui, il s'occupe de nos besoins terrestres. On peut lui faire confiance. Mais il ne faut pas mettre la charrue devant les bœufs. Et Jésus mentionne ici un détail important, c'est que Dieu l'a envoyé donner la vie au monde. Ça, c'était quand même une déclaration forte, non seulement au peuple juif, mais au monde entier. C'est l'agneau qui vient ôter les péchés du monde. Et ça nous conduit au deuxième point que Jésus va aborder, qui répond à la question, mais qui peut manger de ce pain de vie-là? Donc, reprenons à partir du verset 35 et jusqu'à 51. Dans Jean 6, 35, Jésus leur dit, « Moi, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Et je vous l'ai dit, mais vous m'avez vu et vous ne croyez pas. Tout ce que le Père me donne viendra à moi. » Et je ne jetterai point dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire, non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or voici la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, et que je le ressuscite au dernier jour. Voici en effet la volonté de mon Père, que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Les Juifs murmuraient à son sujet, parce qu'il avait dit, « Moi, je suis le pain descendu du ciel. » Il disait, « Celui-ci, n'est-il pas Jésus, le fils de Joseph, lui dont nous connaissons le père et la mère? Comment donc dit-il, je suis descendu du ciel? » Jésus leur répondit, « Ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. » Il est écrit dans les prophètes, « Ils seront tous enseignés de Dieu. Mais quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement, vient à moi. » Ce n'est pas que personne n'ait vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu, lui a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit a la vie éternelle. Moi, je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert, mais ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure pas. Moi, je suis le pain vivant, descendu du ciel. Si quelqu'un mange ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. » Donc, le verset 35 dit que celui qui vient à Jésus sera sauvé, aura la vie éternelle. Qui est ce celui-là? Ben, dans le passage, on comprend que c'est quiconque, n'importe qui vient à Jésus. Toute personne. Verset 40 le spécifie. Il dit, « Voici la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. » Donc, à la fin des temps, toute personne de n'importe quel arrière-plan, de n'importe où sur la terre qui aura cru en Jésus, qui lui aura donné sa vie, va ressusciter. Je ne sais pas combien de millions nous serons, mais nous allons tous ressusciter de tous les coins de la planète, tous ceux qui auront cru en Jésus. Qu'on ait été un bon gars ou un mauvais gars pendant notre vie passée, ce n'est pas important. C'est ceux qui ont cru en Jésus seront ressuscités, ils pourront être avec lui pour une vie éternelle sur la nouvelle terre. Il n'y aura plus d'injustice. Mais là, les Juifs argumentent avec Jésus puis ils ne le croient pas. Et donc, ils ne seront pas sauvés, malheureusement. À moins que plus tard, certains d'entre eux se soient repentis. Pourtant, Jésus dit que tous ceux que Dieu lui donne viennent à lui et croient. Et lui, il garde tous ceux que Dieu lui donne. C'est solennel, c'est une déclaration forte. Tous ceux que Dieu lui donne vont venir à lui et lui, il va tous les garder. Parce qu'il fait seulement, uniquement, la volonté de Dieu, son Père, qui lui a ordonné de ne perdre aucun de ceux qu'il lui a donnés et de les ressusciter à la fin des temps. Il y en a un seul dans le récit des Évangiles qu'on a l'impression que Jésus a perdu, c'est Judas. Mais il s'est répété à plusieurs reprises que c'était voulu. Dieu l'a, même lorsque Jésus l'a choisi, c'était déjà prévu qu'il allait le trahir. Même ce qui pourrait sembler être une exception, ce n'est pas une exception. Judas n'a jamais été dans les leurs, finalement. Jésus ne perd aucun de ceux que le Père lui donne. Donc, si ces gens qui sont devant Jésus, qui argumentent avec lui, qui refusent de croire, s'ils ne croient pas, on peut être sûr que ce n'est pas parce que Jésus les a rejetés ou qu'il les a échappés, qu'il n'a pas réussi à les garder. C'est parce qu'ils ne font pas partie de ceux que Dieu lui a donnés. C'est une déclaration forte que Jésus fait. Il le fait à eux qui sont devant lui. Là, les Juifs continuent à murmurer et à le critiquer. Ils disent, comment il peut dire qu'il est descendu du ciel? On sait d'où il vient, on connaît sa maison. On a connu son père, le charpentier, on connaît sa mère. Et Jésus leur dit, arrêtez de murmurer. C'est justement ça que le peuple d'Israël faisait là, lorsque Dieu leur a donné la manne. Et par la suite, après avoir reçu la manne de Dieu, ceux qui ont continué à murmurer, qui ont continué d'être rebelles avec Dieu, qui n'ont pas respecté les règles, sont morts. Donc, c'est solennel. Dieu donne le pain. Si vous continuez à murmurer, que vous n'êtes pas d'accord avec le plan de Dieu, vous mourrez. C'est grave. Seuls ceux, lorsque Dieu a donné la manne, seuls ceux qui ont respecté les consignes ont pu profiter de cette manne. Et là, Jésus leur déclare, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui l'a envoyé ne l'attire. » C'est clair. C'est difficile peut-être à accepter, mais Jésus est vraiment en train de dire que ceux qui vont croire en lui, ce sont les élus, ceux que Dieu a choisis et qu'il envoie à lui. Et ceux qu'il envoie, c'est qu'il les a attirés et lui envoie. Donc, c'est Dieu qui va décider, c'est Dieu qui décide, et ça va avec le thème de la souveraineté qui parcourt toute la Bible. Quand on ouvre la Bible n'importe où, la souveraineté de Dieu est évidente d'une façon ou d'une autre. Dieu est tout-puissant, il est souverain, il décide de tout. Dieu peut faire tout ce qu'il décide. Et Dieu fait tout ce qu'il a décidé. Il accomplit son plan. Mais ce qui est stupéfiant dans la Bible aussi, c'est que ça n'enlève rien à la responsabilité de l'homme. Ça ne l'atténue même pas, là. La responsabilité de l'homme, elle est montrée. Et ici, Jésus, dans un même élan, il déclare que c'est Dieu qui attire, et que si quelqu'un n'est pas attiré par Dieu, il ne croira pas. Et il invite les gens à croire. Il dit, vous devez écouter, vous devez recevoir ma parole pour avoir la vie éternelle. Donc, Jésus présentait cela sans aucune gêne, aucun complexe, ce qui peut nous sembler deux affirmations contradictoires. Il est présenté ici, l'apôtre Jean le présente aussi, sans aucun complexe, et il nous est demandé d'accepter ces deux vérités-là, que Dieu est souverain, il a un groupe qu'il a élu, qui seront sauvés, mais il demande à tous de répondre volontairement, sincèrement à cet appel-là, à cette invitation de croire. Et lorsque Dieu nous informe de cela, qu'il y a des gens qui sont élus, le but, ce n'est pas de nous décourager, le but, c'est de nous faire réfléchir. Hein. Est-ce que j'en fais partie? Est-ce que je suis un de ces élus? Et ça va justement servir, dans bien des cas, à activer cette curiosité-là, ce questionnement-là, et pousser la personne à sonder qui est Jésus et à être sauvée. Donc, même nous informer de cela, qu'il y a des gens élus, c'est une manière, c'est un des outils dans la main de Dieu pour toucher notre cœur et nous sauver. Mais c'est aussi, ça procure aussi une grande sécurité. On sait que si on va à Jésus, Jésus va nous garder. Il ne va pas nous rejeter. Il ne va pas faire en sorte non plus qu'on l'oublie après quelques années. Il va nous garder dans sa main. Il va en perdre aucun de tous ceux que le Père lui donne. Donc, ces deux vérités qui sont présentées côte à côte dans la Bible, qui sont compatibles, même si dans notre petit cerveau humain, on n'arrive pas à comprendre tout cela, Dieu nous demande de l'accepter. Dieu est souverain, mais nous avons la responsabilité de l'écouter. Et si nous refusons de l'écouter, nous sommes pleinement coupables et responsables. Jésus poursuit ensuite en déclarant que c'est tellement sûr qu'il va ressusciter celui qui croit en lui, que celui qui croit, non seulement aura la vie éternelle, mais il a la vie éternelle. Au présent, celui qui croit a la vie éternelle. Donc déjà, il a la vie. Donc à la différence des Israélites qui ont mangé la manne et qui ont pu survivre quelques jours encore et à répétition parce que Dieu les a nourris dans leur séjour dans le désert, ils sont quand même tous morts éventuellement. À la différence, celui qui mange le pain vivant venu du ciel ne mourra jamais. Oui, on peut passer par l'étape de la mort physique, mais en réalité, on ne meurt pas. On vit même si on meurt. C'est une vie éternelle qui commence dès le jour où on se convertit à Jésus. Et Jésus précise justement qu'il est sur le point de donner sa propre chair à manger pour la vie du monde. Ça nous conduit au troisième point. Comment manger ce pain de vie-là? Est-ce qu'il faut manger des petits morceaux du corps de Jésus? Versets 52 à 59. Les Juifs se querellaient entre eux et ils disaient, « Comment celui-ci peut-il donner sa chair à manger? » Jésus leur dit, « en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme celui qu'ont mangé vos pères, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. C'est ce que Jésus dit alors qu'il enseignait dans la synagogue à Capernaum. Donc après, Jésus a dit qu'il allait bientôt donner sa chair pour être mangé. Les Juifs se querellaient. Comment Jésus peut donner sa chair à manger? C'est quoi la signification? Je ne pense pas que certains pensaient qu'il fallait vraiment faire comme du cannibalisme et commencer à manger le corps physique de Jésus. Mais ils se demandaient qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que Jésus veut dire par là? Et comment ça peut être lui, cet homme-là? Et Jésus poursuit sur cette métaphore-là du pain. Il insiste davantage, il faut manger sa chair et même boire son sang. Et quand on fait cela, ça permet d'avoir la vie en nous et nous permet de demeurer en Jésus et que Jésus demeure en nous. Et ça dure pour l'éternité. Donc, quand on lit les évangiles, quand est-ce que Jésus a offert sa chair et son sang? C'est lors de la crucifixion. C'est lorsqu'il s'est offert en sacrifice. Il l'a fait pour nos péchés, pour payer pour nos péchés, pour faire en sorte que nos péchés qui nous séparaient de Dieu puissent être pardonnés, enlevés, effacés. Donc, pour produire la réconciliation, la communion avec Dieu. Donc, il l'a fait, il s'est sacrifié, il a offert sa chair, son corps et son sang pour nous réconcilier avec Dieu, pour que nous soyons éternellement en communion avec lui. C'est de ça dont il est en train de parler. C'est intéressant quand on lit dans l'Ancien Testament, dans mes lectures quotidiennes, je suis dans Lévitique. Il décrit que quand un Israélite venait et offrait un sacrifice de communion, parfois c'est appelé un sacrifice de paix, la graisse et les organes de l'animal étaient brûlés sur l'holocauste comme un parfum de bonne odeur pour Dieu. Mais celui qui l'offrait, lui et sa famille, mangeaient la chair. Et ils mangeaient devant l'Éternel. Ça montrait vraiment que la famille en communion était en communion avec Dieu. Il y avait la paix et ils étaient en relation là, intime avec l'Éternel. C'était fort comme geste, comme rite. Il pouvait être en communion avec Dieu. Ce qui est intéressant, c'est qu'il ne consommait pas le sang. L'Ancien Testament déclare que la vie est dans le sang. Il devait être répandu sur l'autel. Il ne devait pas manger le sang parce que ce n'est pas vrai qu'un animal pouvait procurer quoi que ce soit pour la vie de l'individu. L'animal mourait et ça pouvait acheter la paix pour un temps et le péché était couvert. Même il fallait que celui qui l'offre en sacrifice mette la main sur la tête de l'animal pendant qu'il était crucifié. Mais l'animal ne pouvait pas, par son sang, accorder la vie à la personne. Mais la question du sang, c'est quand même fort là, comme symbole, et ça pointait au vrai sacrifice qui, lui, non seulement permet la réconciliation, la réconciliation, la communion en mangeant sa chair, mais en plus, en buvant son sang, on a la vie. Donc, ce qui était impossible pour les sacrifices d'animaux, maintenant, le sacrifice qui est Jésus rend cela possible et il procure la vie éternelle. Donc, la chair et le sang de Jésus, l'agneau de Dieu, procure la vie éternelle. Manger sa chair et boire son sang signifie qu'on accepte que ce sacrifice-là soit appliqué à notre compte. On ne fait pas juste croire d'une manière distante ou intellectuelle, on se l'approprie pour sa propre vie. On accepte que Jésus ait payé pour nos péchés, pour mes péchés. Donc, quand on accepte le sacrifice de Jésus comme seul moyen d'être sauvé, les péchés sont pardonnés, effacés, ôtés, et on peut être en communion avec Jésus et avec Dieu pour toujours. Jésus l'exprime qu'on est en lui et lui est en nous. Nous sommes avec Dieu, relation qui est éternelle. Mais bien sûr, ces deux éléments-là, la chair de Jésus, son sang, ça nous fait penser à une autre chose qu'on trouve dans le Nouveau Testament, n'est-ce pas? Ça fait penser à la table du Seigneur, la Sainte Cène. Et parce que ça nous fait penser tellement proche qu'il y a eu des doctrines qui sont sorties au cours de l'histoire de l'Église pour dire que Jésus, à ce moment-ci, lorsqu'il discute à Capernaum, il est comme en train d'instituer la Cène. Il est en train de parler du devoir de manger le pain et de boire le fruit de la vigne dans la coupe pour être sauvé. Et ça a donné, dans la doctrine catholique, la transsubstantiation, où le pain et la coupe deviennent vraiment la chair de Jésus, la coupe devient vraiment le sang de Jésus, et on doit le manger et le boire régulièrement pour pouvoir maintenir un état qui nous conduit possiblement à la vie éternelle si on ajoute le baptême et plusieurs autres œuvre ou des sacrements qui procurent la grâce, mais l'Eucharistie, elle est comme une nourriture nécessaire, matérielle, un moyen physique de se maintenir avec Christ, Mais on doit dire à la lumière des Écritures que c'est faux, cette doctrine-là. Jésus parle ici d'une nourriture qui est spirituelle, qui change notre statut spirituel, qui ne nourrit pas notre ventre. Et il parle d'une nourriture qu'on mange une fois et qui est bon pour toujours. On n'a pas besoin de répéter ce geste-là, comme de resacrifier Jésus et de le reconsommer régulièrement pour avoir la vie. Jésus a été sacrifié une fois et on se l'approprie une fois et c'est bon pour l'éternité. Si Jésus dit que mon corps et mon sang, c'est une vraie nourriture, c'était pour contraster avec la nourriture matérielle que l'on mange. Et ça est bon simplement pour un temps, comme la manne. C'est vraiment temporaire, ça nous permet de survivre une journée de plus. Si Jésus est une vraie nourriture, c'est que toute la nourriture qu'on consomme sert à illustrer la vraie nourriture, la vraie source vitale qui est Jésus. C'est une nourriture spirituelle. Et s'il fallait la prendre régulièrement, elle serait elle aussi temporaire. Mais au contraire, elle est permanente. D'ailleurs, Jésus va dire plus loin dans le passage qu'on va voir la semaine prochaine, au verset 63. Jésus dit, c'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui fait vivre. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. C'est un message spirituel que Jésus enseigne. Mais il utilise la métaphore du pain. Mais bien sûr, Jésus savait que ces paroles-là, son enseignement, seraient écrit dans un évangile que les chrétiens allaient lire par la suite. On ne peut pas s'empêcher, quand on lit ça, de penser à la table du Seigneur. Mais il y a un lien qui est fort. Jésus n'a pas utilisé cette métaphore-là pour rien, par hasard. Parce que ce qu'on célèbre lorsqu'on mange la table du Seigneur, lorsqu'on prend la table, qu'on mange le pain, qu'on boit la coupe, c'est qu'on se souvient de ce sacrifice-là que Jésus a fait pour payer pour nos péchés. On se rappelle constamment de ce qui nous a sauvés. Donc la table nous pointe à la vérité qui est le sacrifice de Jésus, dont on peut bénéficier par la foi, qui est la même chose que l'enseignement de Jésus ici. C'est un rappel, cette table. Mais ce n'est pas la table qui nous sauve. Mais elle nous rappelle la communion qu'on a avec Jésus, la communion qu'on a entre chrétiens, notre famille devant Dieu. Donc, en résumé, Jésus est le pain de vie, le pain qui est descendu du ciel, envoyé par Dieu pour nous sauver. Nous sauver de quoi? Nous sauver de la condamnation à mort et nous donner la vie éternelle qui commence dès maintenant. On sait sûr que ça apporte une foule de bienfaits de savoir qu'on est, on est réconcilié avec Dieu. Et Dieu commence déjà à nous bénir de plusieurs bénédictions spirituelles qui vont continuer et qui vont prendre leur forme finale dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre, dans l'éternité. Est-ce que vous avez mangé de ce pain-là un jour? Que c'est arrivé dans votre vie que vous avez cru que le sacrifice de Jésus était pour payer pour vos péchés et vous avez accepté qu'il paye pour vous. Ce n'est pas tous ceux qui ont compris cela qui l'acceptent. Est-ce que vous avez déjà accepté? Vous êtes déjà humilié devant Dieu? Vous dites, j'accepte que ce soit Jésus, un autre que moi, qui paye pour mes fautes. Et je vais arrêter d'essayer de me justifier par moi-même. J'accepte. Mes péchés ont été payés par un autre qui est juste le Saint de Dieu, l'agneau de Dieu. Sinon, bien, vous pouvez le faire dès maintenant. Vous acceptez ce sacrifice-là comme moyen de vous sauver et vous serez sauvés. Donc, qui peut manger de ce pain-là? C'est n'importe qui. Peu importe sa vie passée, peu importe sa provenance, quiconque, comme dit Jésus. Donc, tous ceux qu'on croise, nos voisins, même nos collègues de travail, qu'on dit, « Ah, lui, c'est vraiment un mauvais garçon. » Mais même lui, il est invité à croire, et même lui, Dieu peut toucher son cœur. Dieu en attire de partout dans le monde, des gens de toutes nations. Il les attire à lui, et ils vont croire. Il met la repentance, la foi dans le cœur. C'est pour ça qu'on peut prier le Seigneur pour qu'il sauve. Parce que c'est lui qui intervient. Et tous ceux à qui Dieu donne des oreilles pour entendre, mangent de ce pain-là. On lit dans Apocalypse 2, 17, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai la manne cachée. C'est Jésus, ça, qui procure la vie éternelle. Mais on est vainqueur seulement si on est lavé de nos péchés, si on a vaincu le monde avec Christ. Comment manger de ce pain-là? En croyant au sacrifice de Jésus. On tenons-nous loin des leaders chrétiens qui attirent les foules en promettant des bienfaits pour cette vie terrestre. Faisons attention à cela. Parce que les paroles sont choisies pour séduire. Ce qui est le plus important, c'est de rechercher le royaume de Dieu. Et Dieu va s'occuper de tous nos besoins. Qu'on s'efforce d'abord à lui obéir, à suivre Jésus, suivre ses prescriptions. Et Dieu va prendre soin de nos besoins, même nos besoins matériels. La vie est courte, il faut maintenant même sensibiliser les gens à leur destinée après la mort. Donc, tenons-nous loin des prédicateurs qui détournent l'attention de la vie éternelle et, normalement, eux-mêmes vont tomber dans toutes sortes de pièges. Ceux qui se soucient des choses du monde tombent dans les choses du monde. Et éventuellement, il y a des comportements scandaleux qui ressortent. Je conclue par Romains 16, où Paul dit « Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, contrairement à l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent pas Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre. Par de bonnes paroles et par des éloges, des flatteries, ils séduisent les cœurs des gens sans malice. Pour vous, votre obéissance est connue de tous, et je me réjouis donc à votre sujet. Et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien, purs en ce qui concerne le mal. Et le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec vous. Amen.